Et bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à la thématique de la sexualité, la sexologie en règle générale. Et pour cela, nous sommes en compagnie de Joëlle Gourrier. Bonjour.
Bonjour Gaël.
Je rappelle que vous êtes notre intervenante, vous êtes sexologue à Épinal, vous travaillez au centre Juno qui se trouve à deux pas du centre des congrès. Et en plus d'être sexologue, vous êtes psychologue et thérapeute de couple. Avec vous, nous avons lancé cette série d'émissions sur la thématique de la sexologie autour particulièrement de cette représentation que vous m'avez apporté, représentation graphique de la sexualité de l'individu sous la forme d'un arbre dont nous présentons les racines, le tronc, et actuellement nous sommes passés donc aux branches principales. Parmi ces branches principales, il y en a une qui s'appelle la composante personnelle, et sur cette composante personnelle, il y a une branche secondaire qui s'appelle l'assertivité sexuelle. Et donc je vous ai proposé lors de notre dernière émission eh bien, de poursuivre avec d'autres exemples autour de cette thématique, donc du manque d'assertivité sexuelle, donc du manque de confiance en soi dans le domaine sexuel.
Je peux vous donner un autre exemple qui est assez intéressant. Je reçois un coup de téléphone, une demande de rendez-vous. C'est très nettement une jeune femme. J'arrive dans la salle d'attente, je rencontre une toute petite personne, blouson de cuir, casquette, jeans et des Docs Martens. C'est ces grosses bottes-là. Et je me dis, j'ai dû me tromper. Donc, pour moi, c'est un garçonnet. Donc, je ne sais pas qui j'ai devant moi.
Vous faites entrer dans le cabinet ?
Non, je lui dis, avec qui avez-vous rendez-vous ? Elle me répond, j'ai rendez-vous avec Madame Joëlle Gourrier. Bon, donc bon point. Et je lui dis, pouvez-vous me rappeler votre nom ? Et elle me donne son nom. Donc, c'est bien la bonne personne.
Et c'est bien un prénom féminin.
Donc ça, je vais le lui restituer à un moment. C'est-à-dire l'ambiguïté. Donc, elle est mère de famille. Elle a deux petites filles. Elle travaille dans un restaurant. Et elle s'habille toujours comme un garçon pour ne pas attirer...
Les mains aux fesses, ce genre
voilà.
de truc.
Donc,
ce qu'elle vous a expliqué, elle vous a expliqué qu'elle en avait déjà été victime ?
Non.
Donc en fait, c'était plus une crainte,
c'est une crainte
imaginaire que quelque chose de réel et de vécu.
Exactement, exactement. Donc si elle avait été agressée ou je sais pas quoi, il y aurait une autre composante à travailler. Hein? Mais là, il y a même pas ça. Donc on va travailler sur sa féminité et sur comment on peut porter une féminité avec fierté sans être ostentatoire. Parce qu'elle a deux petites filles.
Oui, qui sont des filles.
Qui sont des filles.
Qui vont se servir de l'exemple de leur maman.
Voilà. Hein? Donc, et elle est complètement déboussolée par ces deux petites filles qui ne veulent pas porter de pantalon, qui veulent toujours être en robe, et qui ceci et qui cela. Et on va travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'éclosion de sa féminité pour pouvoir atteindre le manque de désir qui est extrêmement important dans son couple. Elle ne veut plus faire l'amour.
Mais ce blocage-là, pour pouvoir débloquer ce manque de désir, il y avait tout un travail en amont sur la confiance, sur
Exactement.
La féminité, sur le droit d'être une femme et d'exister en tant que femme et de montrer qu'elle est une femme.
Voilà.
Parce que là, c'était vraiment tout dans l'apparence de laisser transparaître un homme plutôt qu'une femme.
Voilà. Et comme elle est toute petite, toute mince... moi, et avec des cheveux très courts, c'est juste son visage et ses yeux je me suis dit, je sais pas, c'est ambigu. C'est très ambigu.
Donc là, le travail a pu être fait, elle a pu également s'épanouir d'abord sur un travail de confiance en elle-même en tant qu'individu femme.
Oui. Le résultat, il est que elle a acheté des t-shirts féminins.
D'accord.
Et donc, quand elle
déjà,
est arrivée...
Déjà, effectivement, on le rappelle, un t-shirt féminin n'a pas la même coupe qu'un t-shirt masculin.
Exactement. Si je vous mets mon t-shirt aujourd'hui, vous allez ressembler à une fille. C'est absolument évident. Il a du rose, il a... Alors, vous pouvez mettre des t-shirts roses. L'autre jour, il y a eu toute une émission sur un monsieur qui se présentait donc avec du rose et qui expliquait, c'était sur YouTube, qui expliquait comment, actuellement encore, quand on voit un homme avec un t-shirt rose...
C'est interprété.
Oui.
Ouais. Comme étant une forme d'homosexualité.
Ça peut, ouais, tout à fait.
Alors qu'on peut tout à fait porter une chemise rose avec un costume, par exemple.
Absolument.
Et une forme de virilité qui va avec.
Absolument.
D'ailleurs, puisque vous en parlez, je rappelle que l'équipe des Gameio, Feu les Gameio, avait joué un match en rose pour soutenir Octobre Rose, le mois de dépistage du cancer du sein. Comme quoi, le rose peut aller aussi à des sportifs. Et quand on parle de hockey sur glace, on ne parle pas de fillette, entre guillemets, passez-moi l'expression.
Non. Oui, tout à fait.
Donc, la couleur ne devrait pas avoir d'impact. Pour en revenir sur cette jeune femme, donc elle a osé le rose ?
Non, c'était plus dans le... Il était blanc et c'était plus dans les dentelles. Il y avait un petit peu de dentelles.
Mais ouais. C'était féminin.
C'était féminin.
Il n'y avait plus d'erreur au premier regard.
Non.
Et puis, est-ce que vous avez aussi travaillé sur son attitude corporelle ? Parce qu'on imagine que du coup...
On a beaucoup marché autrement que... Donc, je lui ai fait enlever ses grosses bottes. Parce que c'est très difficile de marcher comme une femme avec ces chaussures-là.
Elles sont lourdes en plus.
Elles sont lourdes, donc voilà. Oui, on a travaillé sur la marche, sur comment on peut porter sa féminité en marchant, la façon de bouger son bassin, ouais.
Donc, et tout cela lui a permis, parce qu'elle venait, elle était en demande par rapport à ça.
Elle était en demande par rapport à son manque de désir. Je pense qu'elle n'avait pas imaginé qu'on allait travailler. Et je ne pouvais pas aborder le manque de désir tant qu'il n'y avait pas ça, parce qu'elle ne savait pas qui elle était dans le couple.
Et là, elle a pu retrouver sa place.
Tranquillement.
Place d'épouse, place de mère, etc.
Voilà. Place de femme aussi.
Place de femme ?
Oui. Ouais.
Et place de maman de petite fille, du coup, de retrouver peut-être aussi une communication plus féminine entre cette...
Je crois qu'elle l'avait, que c'était pas ça le problème, mais elle était un tout petit peu dérangée par ces deux petites filles, toutes petites, 6 et 4 ans, qui prenaient le contre-pied de leur maman. Et ce qui risquait d'arriver, c'est que papa dise nommément...
Et pourquoi toi, tu...
Voilà, qu'il oppose les deux. Ça aurait été embêtant. Il ne le faisait pas, parce que c'est un homme intelligent, mais il comprenait pas. Je l'ai rencontré deux fois, et il comprenait pas du tout qu'est-ce qu'il pouvait faire, lui, pour aider sa femme à ne pas avoir peur d'être une femme.
Mais le travail était d'abord à faire sur elle-même.
Oui, bien sûr.
Bien, voilà en tout cas pour ces deux exemples par rapport à ce grand manque d'assertivité sexuelle, donc de confiance et d'assurance sexuelle. Ce que je vous propose, Joël, c'est qu'on puisse également aborder la thématique d'un deuxième point, une deuxième composante personnelle. Donc cette fois-ci, on va passer à l'imaginaire sexuel. Alors la première chose qui me vient quand j'entends imaginaire sexuel, et je pense que vous allez tout de suite me contredire, je pense fantasme. Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce qu'au contraire, c'est opposé?
Alors, ça n'est pas opposé, pas intrinsèquement opposé. Les fantasmes font partie de l'imaginaire sexuel. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'un fantasme est un petit peu enfermant, alors que l'imaginaire est justement l'ouverture sur d'autres possibles.
Alors, prenons un exemple.
Alors, si monsieur a le fantasme de faire l'amour dans un ascenseur, par exemple, bon, à ma foi, il va suivre son idée, il va essayer, ou il va y arriver ou il va pas y arriver.
Donc le fantasme n'a pas été vécu, il y a une sorte de frustration quelque part.
Oui, c'est-à-dire qu'il peut toujours subvenir. Malheureusement, une fois qu'il sera vécu, c'était ça. Soit on a eu beaucoup de plaisir et on a eu beaucoup d'adrénaline, parce que quand même, l'ascenseur, à moins de monter dans un building...
Au bout d'un moment, il s'ouvre.
Ou alors on le met en panne, mais bon. Alors que l'imaginaire, c'est... Alors déjà, avant, comment est-ce qu'on peut trouver la partenaire qui va vouloir, trouver le bon immeuble, éventuellement trouver la stratégie pour y rester. Enfin, donc l'imaginaire, c'est tout ce qu'on va pouvoir broder autour de ce fantasme. Mmh. Hein? Et c'est vrai que dans la sexualité, si on n'imagine pas des choses, et c'est ce qui rend quelquefois la sexualité si monotone, c'est parce qu'il n'y a pas d'imaginaire et qu'on ne change jamais de manière de faire.
C'est toujours le même rituel, avant d'aller se coucher, soit le matin, soit dans la journée.
Soit dans la journée, mais et c'est toujours les mêmes paroles, les mêmes gestes, parce que l'imaginaire ne nous permet pas d'introduire autre chose.
Mmh. Hein? Donc l'imaginaire sexuel, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a plus ou moins selon les individus ?
Absolument. Sans parler d'imaginaire sexuel, je vais vous donner un exemple. J'ai, en tant que psychologue, beaucoup travaillé avec des enfants. Mmh. Et l'imaginaire dans le jeu est très, très, très présent.
Chez les enfants particulièrement, on voit d'ailleurs que les programmes télévisuels ou autres qui sont proposés, même les livres, font beaucoup travailler l'imaginaire.
Voilà. Et alors, je travaillais avec une méthode qui s'appelle la méthode du jus de sable. Et donc, c'est un bac dans lequel il y a du sable. Et puis, j'avais énormément de petites figurines. Et donc, l'enfant pouvait créer tout d'un coup un monde. Mmh. Et j'avais un petit garçon qui avait 7 ans à cette époque-là et qui manquait cruellement d'imaginaire, mais cruellement. Et mon pari, c'était d'essayer de développer son imaginaire. Il n'arrivait pas à dessiner, il ne savait jamais quoi. Donc, je pars sur le jeu de sable. Il était complètement bloqué devant le jeu de sable. Il ne savait vraiment pas quoi faire. Et moi, j'avais un stylo dans la main. Alors, je prends mon stylo et je fais le bruit de l'avion. Et je fais « Ouh !» Pouf ! Je fais atterrir mon stylo dans le jeu
dans
de sable.
Mmh.
Et il me regarde, puis il me dit « Mais t'es complètement folle ! On n'a jamais vu un stylo voler !» J'avais du travail.
Oui, là, effectivement.
Parce que si on fait ça avec un autre enfant, il rebondit. Et j'ai vu.
Il n'y a plus de stylo.
Il n'y a plus de stylo. Hein, et puis on fait n'importe quoi avec le stylo.
Mmh.
Hein, bon. Eh bien, avec cet enfant-là, non. Donc, oui, il y a des êtres qui ont beaucoup d'imagination. Et l'autre jour, j'ai entendu parler d'une dame qui est en train de développer un travail. Elle devient la fée des gâteaux.
Mmh.
Et c'était son mari qui m'en parlait. Et il me disait, on lui téléphone, on lui explique ce qu'on veut. 10 minutes après, elle a trouvé quel gâteau elle va faire pour que ça corresponde au rêve. Donc, les gâteaux d'anniversaire, les gâteaux de mariage, pouf, ça part. Il me dit, elle a une imagination, c'est incroyable. Ben voilà, hein? Mmh. elle l'a transformée. Mais ça peut être dans un jardin, ça, la couture, le roman, comment on écrit un roman.
Mmh.
Comment, moi, quelquefois, devant certains romans, je dis, mais...
Où ils vont chercher tout ça?
Où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Et mon imaginaire à moi, c'est quand j'ai devant moi quelqu'un qui m'explique sa difficulté et que je vais aller chercher dans ma boîte à outils l'outil qui va faire que. Je vais faire certains exercices avec des personnes, pas avec d'autres.
Mmh. Hein? Oui, évidemment, ça dépend de chaque individu. Eh bien, je vous propose qu'on puisse parler justement de ces outils que vous mettez en œuvre pour aider les individus à développer leur imaginaire sexuel, hein, puisque c'est ce qu'on dit depuis le début de cette série d'émissions, à savoir que toutes ces composantes dont on parle, dans le domaine des composantes sexuelles, en ce moment nous parlons de l'imaginaire sexuel, toutes ces composantes sont développementales. Donc on vous retrouvera, Joël Gourrier, très prochainement dans une nouvelle émission autour de cette thématique de la sexologie pour aller encore plus loin, comprendre davantage comment ça fonctionne et comment développer son imaginaire sexuel. À très bientôt, et quant à vous qui nous écoutez sur l'antenne, je vous rappelle que vous retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet.